talmudique. Nous sommes à la synagogue et l'heure de la lecture de la Torah est arrivée. Un homme de l'assemblée se lève pour ouvrir le rideau de l'Arche Sainte, puis un second ouvre les deux portes sculptées de cette armoire très spéciale qui contient les rouleaux de la Torah. Il se penche à l'intérieur pour prendre l'un des rouleaux qu'il donne à une seconde personne qui se tient à ses côtés, qui à son tour donne le rouleau à une troisième et ensemble, selon une procession bien réglée, déambule à travers les fidèles qui embrassent respectueusement le manteau qui enveloppe le rouleau. Procession qui, après avoir fait le tour de la synagogue, s'arrête devant la bima, la table de lecture à laquelle on accède par quelques marches. Une autre personne enlève le manteau du rouleau et une autre encore ouvre le rouleau, le déploie et le lève en un geste qui rendrait jaloux bien des haltérophiles pour montrer à toute l'assemblée le texte qui sera lu dans la suite de la cérémonie. Longtemps, je fus frappé par cette chorégraphie dont je fus très tôt le témoin dans ma prime enfance. Mais ma plus grande surprise eut lieu le jour où, avec l'école, nous rendîmes au théâtre, théâtre Sébastopol à Lille, cette ville dont j'ai déjà parlé dans une précédente émission. C'était la première fois que j'allais au théâtre. Molière, Le Malade Imaginaire, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Le noir se fit, le silence, les trois coups, le lever du rideau, puis la scène illuminée qui, pendant un instant très fugace mais suffisamment profond, me donna l'impression d'être à la synagogue dans ce moment si singulier de l'ouverture de l'Arche Sainte. Cette première émotion théâtrale de mon enfance, sans que j'en eus une réelle conscience, a irrigué et illuminé toutes les lectures ultérieures de la Torah auxquelles j'ai assisté à la synagogue, dans toutes les synagogues du monde, expliquant sans doute le plaisir intense et toujours renouvelé que fut pour moi d'écouter, semaine après semaine, année après année, l'histoire de la création du monde, de l'homme et de la femme, de leur aventure avec le serpent, le conflit entre Caïn et Abel, Noé et le déluge, la tour de Babel, l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Joseph et ses frères, Moïse et le Pharaon, la sortie d'Égypte, l'errance dans une demeure fragile dans laquelle l'homme apprit comment avoir rendez-vous avec la transcendance. Plus tard, il me fut aisé de comprendre la fascination de Kafka pour le théâtre yiddish et sa remarque dans la lettre au père où il parle des rouleaux de la Torah sortant d'une armoire de la synagogue comme des poupées sans tête, image questionnant par là même le rapport complexe entre le théâtre et le judaïsme, le théâtre et l'univers biblique, comme le lui expliqua son ami, l'acteur du théâtre yiddish Yitzhak Levy. Plus tard aussi, je compris pourquoi la première troupe de théâtre en langue hébraïque, créée à Moscou en 1914, prit le nom de Abima, le nom même de la table de lecture des rouleaux de la loi à la synagogue que j'ai évoqué, nom que le Théâtre National d'Israël a gardé jusqu'à aujourd'hui, une façon de souligner la continuité entre la synagogue et le théâtre, ou plus précisément, une façon de comprendre le théâtre comme une continuité laïque de la synagogue. Bien sûr, la littérature, la peinture, la musique et le cinéma sont riches d'œuvres qui ont puisé leur inspiration dans le terreau des récits bibliques. Mais le théâtre, en dehors des Purimspiel, est resté très en retrait dans ce domaine. On comprendra mon enthousiasme quand j'ai assisté très récemment, au théâtre de l'Aquarium, à la représentation d'une pièce de théâtre intitulée « Chercher la faute » d'après la Divine Origine, un texte de Marie Balmary. Une pièce qui ne raconte pas seulement l'intrigue mais qui commente l'épisode où Adam et Ève rencontrent le serpent et consomment le fruit de l'arbre défendu dans le célèbre troisième chapitre de la Genèse, une pièce où c'est la lecture d'un texte et son exégèse qui sont mis en scène par le directeur du théâtre de l'Aquarium, en personne. François Rancillac, bonjour.
Bonjour.
C'est un très grand plaisir de vous recevoir dans Talmudique pour parler avec vous de votre pièce, de son contenu et de sa mise en scène. Mais tout d'abord, j'aimerais que l'on dise quelques mots de ce théâtre. Vous officiez, si l'on peut dire actuellement. Qu'est-ce que le théâtre de l'Aquarium, ce lieu magique dans le bois de Vincennes? Comment est-il né et quelle est sa vocation, François Rancillac?
C'est une grande histoire. Le théâtre de l'Aquarium est né en 73. C'était c'est le dernier théâtre né dans ce site, effectivement, cette enclave, cette clairière au milieu du bois. Donc il y a 5 théâtres, le théâtre du Soleil, le théâtre de l'Épée de Bois, le théâtre de la Tempête, il y a eu le théâtre du Chaudron qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle l'Atelier de Paris, plus un lieu de formation, plus un centre équestre. Donc en fait, c'est un lieu qui est né dans l'après 68 par des troupes, des collectifs d'acteurs qui se sont emparés de ces friches. Donc c'était des anciens sites militaires, on fabriquait des cartouches hein, et de la poudre. L'armée avait abandonné les lieux. Je crois qu'à l'époque, il n'y avait plus que quelques loulous et quelques prostituées qui officiaient à leur manière là-bas. Et ils ont en fait investi ces lieux qu'ils ont retapés, mais vraiment à la main, avec les moyens du bord, parce qu'ils n'avaient pas envie de faire du théâtre intramuros, ils avaient envie de leur lieu, avec aussi la possibilité d'instaurer un autre rapport entre le public et les acteurs. Par exemple, le premier spectacle phare de la cartoucherie, c'est 1789 de Mouchkine, donc pour raconter la Révolution française, donc le public était essentiellement debout, allant d'un tréteau à l'autre, où se racontaient les différents épisodes de la Révolution, donc le public faisant la Révolution, étant le public, disons, de la rue de Paris, assistant aux différentes... voilà, ce qui a construit notre Révolution, donc notre démocratie. Voilà, donc ce sont ces collectifs qui se sont emparés de ces lieux, qui se sont bâtis leur nid, leur refuge, d'une certaine manière. Et donc, ça a été évidemment des lieux portés aussi par le public de l'époque. C'est-à-dire que je pense, moi j'étais trop jeune, mais si on avait 25 ans, qu'on était un peu à gauche et qu'on s'intéressait au théâtre, on n'allait pas en centre-ville, c'était bourgeois, réac, etc. On allait à la cartoucherie comme on allait dans les théâtres de la ceinture rouge, comme on dit. Voilà, aujourd'hui, ça a bien changé. Mais ces théâtres sont là, toujours vaillants, avec toujours des artistes à l'intérieur, à essayer de faire un peu du théâtre un peu différemment.
Ce théâtre, comme une cabane au milieu des bois, comme vous venez de le dire, a fait surgir des images, pour moi en tout cas, des images d'arbres et de feuilles quand je l'ai vu. J'ai pensé à la fragilité de la nature qui change et se renouvelle au gré des saisons. J'ai pensé à un texte de Valère Novarina, méditant devant le célèbre tableau de Piero della Francesca, intitulé « La Madone entourée d'anges et de saints », et citant la phrase « Le Verbe s'est fait chair » et il est venu habiter parmi nous, Novarina commente le mot grec eskénosène, il est venu habiter parmi nous, eskénosène vient de skéné. Et dans les lettres sigma, kappa, nu, les trois lettres de skéné, les rabbins ont très vite reconnu, dit-il, les lettres shin, kaf, nun, du mot shechina, qui dans la kabbale représente la présence divine. La skéné grecque, renvoyant à la shechina et au verbe hébreu shachen, résider, signifie en fait, en grec, la tente. Et le verbe eskénosen signifie le fait de planter sa tente. Tente que l'on retrouve dans l'hébreu mishkan, qui désigne dans la Bible hébraïque le sanctuaire du désert. Le divin, dans l'univers biblique, plante sa tente parmi nous. Il n'édifie pas son temple en dur, mais vient planter sa tente légère. Pas d'édifice solide pour la parole, mais un rouleau fragile, écrit Novarina, en soulignant que skéné, bien évidemment, c'est aussi la scène, l'édifice volatile du théâtre, son habitat léger. La question que je vous pose, François Rancillac, comment vivez-vous la scène? Est-elle aussi pour vous cette demeure fragile, maison de peu, ni socle, ni plancher pour l'homme, ni pour l'acteur, ni pour l'enfant, ni pour personne jamais?
Comment dire? C'est sûr que... Moi, ce que j'adore, par exemple, c'est les théâtres vides. C'est-à-dire que c'est toujours des lieux où tout est possible. Et tout est possible à partir du moment où il y a des êtres humains qui vont commencer à raconter des histoires. C'est pour ça que quand vous faisiez allusion tout à l'heure aux histoires bibliques qui ont généré tellement d'autres histoires, moi je suis vraiment cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est quand même l'endroit où on continue à raconter des histoires à d'autres personnes qui vont venir, d'autres êtres vivants. Et en fait, le théâtre, bon, c'est des murs, mais en fait, il n'a vraiment de sens, il ne commence vraiment à exister que quand ces êtres humains l'investissent d'un côté ou de l'autre de la scène, s'il y a une scène et s'il y a un public. Je veux dire, assis en face de la scène. Donc, cette fragilité, ce côté très éphémère surtout, puis on sait très bien, nous, gens de théâtre, qu'on travaille vraiment sur du temps présent, qui n'aura d'autre vie après la représentation que dans la mémoire ou dans la chair, enfin, des spectateurs ou des artistes, enfin, tous ceux qui ont travaillé autour d'un spectacle. Et comment ça travaille? Enfin, quand le spectacle, évidemment, vous a touché, quand il y a eu une rencontre. Parce que c'est vraiment le lieu de la rencontre. Donc oui, c'est fragile. Et c'est vrai qu'à la cartoucherie, on est en plein bois, on est complètement coupé de la nature. Donc c'est un lieu aussi un peu de retrait, de recul.
Donc, complètement coupé de la ville, vous voulez dire?
Oui, la ville, pardon, vous avez raison. Mmh. Et puis, il y a cette présence de la nature qui est très forte. Il fait humide quand il fait humide dehors, il fait chaud quand il fait chaud dehors. Enfin, c'est très perméable aussi, une sorte de peau très poreuse. Il y a un centre équestre, donc on voit des chevaux, une petite école maternelle. Cette présence des animaux, des enfants, comme ça coupé de la ville, nous met à un endroit vraiment de concentration, de simplicité aussi, qui est assez incroyable. Donc on est obligé de déconnecter pour se reconnecter à autre chose.
C'est une manière aussi d'être très éveillé à ce qui nous entoure.
Oui, on est en retrait, mais du coup, on est plus en contact. Oui, tout à fait.
Alors indépendamment de cette pièce de théâtre qui met en scène ce chapitre 3 de la Genèse, où vous réfléchissez sur la rencontre d'Adam et Ève et du serpent, dans votre vie théâtrale, est-ce que vous avez déjà perçu, senti, intuitionné ce rapport entre théâtre et judaïsme? La skéné grecque a-t-elle chez vous déjà flirté avec la shérina hébraïque? Ou pour poser la question de manière plus pragmatique, comment avez-vous eu l'idée de cette pièce? Comment avez-vous rencontré ce texte? Quelle place a-t-il dans votre parcours d'homme de théâtre, François Ranciac?
Alors, à ma grande honte, vous vous adressez à un mécréant, ignare, et c'est pas que j'en suis fier du tout, mais c'est un peu ça que je raconte aussi d'ailleurs dans le spectacle. Alors, moi, j'ai une vague petite éducation catholique, mais j'ai pas eu la chance, je pense, de rencontrer des prêtres intéressants. Donc, j'ai un peu jeté ça par-dessus les orties. Et en fait, c'est par des hasards. Il y a une personne qui compte beaucoup pour moi sur ce chemin-là, qui d'ailleurs est dans le spectacle, qui est Frédéric Révérend, qui lui est en plus d'être comédien, metteur en scène, généalogiste et traducteur, etc., aussi théologien protestant. Et comme à un moment avec lui, je voulais monter Pergune d'Ibsen ou le chemin de Damas de Strindberg, et que il parle aussi le norvégien, le suédois parmi d'autres langues, je voulais travailler avec lui. Donc travaillons par exemple sur ces auteurs protestants qui sont nourris jusqu'à la moelle des textes bibliques. Il me disait attention, ça c'est une référence à je sais pas quoi, Matthieu 4:27. Il m'ouvrait la Bible, il commençait à me lire le texte. Je disais mais c'est quoi ça? On m'a jamais parlé de ça. Et donc c'est un peu grâce à lui, d'une certaine manière, que je suis sorti un peu des idées bébêtes que de toute façon la religion c'est fait pour les couillons. L'autre petit mouvement, choc, on va dire, c'est une proposition de participer, il y a fort longtemps, donc en 2001, à un cabaret philosophique au Théâtre d'Épernay. On était plusieurs metteurs en scène, on devait tous travailler sur un thème commun qui était l'origine, avec un seul interdit, qui était d'utiliser un texte théâtral. J'avais des idées, j'ai fait un peu des études de philo, je me disais, tiens, la nature des choses, de Lucrèce, un texte que j'adore, etc. Mais je ne savais pas quoi en faire au théâtre, je ne voyais pas comment ça pouvait faire théâtre. Et puis, à l'époque, j'étais en analyse, et puis je raconte mes désarrois à ma psy, qui me dit à un moment, mais lisez donc Marie Balmary. Voilà, un petit haussement d'épaule, comme elle aimait bien faire. Une dame que j'estime beaucoup. Donc, comme je suis sage et puis curieux et obéissant, j'ai acheté La Divine Origine de Marie Balmary. Je suis tombé de ma chaise. Vraiment, c'est un livre qui m'a totalement bouleversé parce que j'ai découvert combien ces textes, dont je ne savais vraiment rien, étaient tellement source de pensée, mais de pensée pour nous aujourd'hui. C'est pas faire de l'histoire, mais c'est tellement... Enfin, moi, j'ai l'impression que d'avoir compris des choses grâce à ce livre-là, de manière très, très intime, et puis de découvrir combien ces textes donnaient à penser en permanence. Et en plus, ce qui me passionnait dans ce livre-là, c'est que c'est une enquête. C'est-à-dire qu'elle travaille, elle se pose des questions, puis elle revient en arrière, et puis elle ne sait plus, et puis elle va de l'avant, puis elle revient en arrière, et puis elle raconte aussi combien la vie la nourrit dans son travail, que ce soit la vie, comme elle est psychanalyste, donc de son travail de thérapeute, ce que les patients lui apprennent des choses sur la lecture de ces textes-là, où elle travaille avec un groupe de lecteurs, enfin sans arrêt. Donc ce travail en mouvement qui va de questions en hypothèses, en petites confirmations, en affirmations. Enfin, je me suis dit mais là il y a de la pensée en acte. Et donc là il y a du théâtre. Et puis savoir aussi qu'elle travaille effectivement depuis donc des années, des décennies avec un groupe de lecteurs. Et puis comme je l'ai rencontré, elle m'a dit, vous savez, et puis on discute, c'est-à-dire qu'on s'engueule beaucoup, on n'est pas d'accord. Et c'est de cette dispute, au sens fort du terme, qu'il y a une intelligence collective qui peut naître. Là aussi, je me suis dit qu'il y avait théâtre, puisque théâtre, c'est l'endroit de la contradiction. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire une chose, on dit « ah ouais », puis quelqu'un dit une autre chose, et on fait « ah ouais aussi ».
Et donc, moi, où je suis, entre le A et le B, on va dire, où est le C, etc., etc. Et donc, cet endroit du dialogue, donc l'endroit de la dispute, la contradiction, j'avais l'impression que j'avais un fil par lequel je pouvais rendre compte de cette pensée qui m'avait tellement ému. Puis, je m'étais dit de manière très prétentieuse, ça, c'est la prétention d'artiste, ça me touche moi, ça va toucher forcément la terre entière. D'ailleurs, je vous avouerai, quand on a créé le spectacle, on était très inquiets avec les acteurs en disant « mais on va les ennuyer ». Et puis, ben non. Le spectacle, depuis, donc, a pris à l'époque, en 2001, ça a duré une demi-heure. Ensuite, quand je suis arrivé à la Comédie Saint-Étienne, j'ai voulu le reprendre et donner plus de place à la pensée de Marie Balmary, ce que j'avais dû beaucoup, beaucoup couper. Donc, on est passé au format d'une heure, qui est celui d'aujourd'hui. Et on l'a joué plus d'une centaine de fois, à la fois sur des plateaux de théâtre, j'irai après pourquoi, dans des lieux associatifs, dans des lieux confessionnels, ça nous arrivait quelquefois, dans des salles de classe. Ce qui est pour moi extrêmement important. Voilà, on l'a joué une centaine de fois jusqu'en 2008 environ. Puis après, voilà, je passais à autre chose. Et puis, j'ai eu envie de redonner vie à ce texte-là avec exactement les mêmes acteurs parce que je m'intéresse beaucoup à la question laïque. Et je me suis dit, mais en fait, un peu comme M. Jourdain, j'ai fait d'une certaine manière un spectacle laïque sans le savoir. Ce n'était pas du tout ma préoccupation à l'époque. Ça l'est aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous appelez un théâtre laïque?
Grande question. J'en sais rien, mais en tout cas, bon, il y a ce spectacle-là. L'année prochaine, si les dieux de la finance sont favorables, je ferai une nouvelle création, un texte que j'ai commandé à une jeune autrice formidable qui s'appelle Mariette Navarro, et je vais passer commande d'un texte sur la laïcité, vaste sujet. Parce qu'en fait, depuis plusieurs années, ce que je vais dire est banal, je suis très... comment dire, inquiet, pour pas dire énervé ou en colère, contre ce qui peut se dire aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire cette laïcité, si on la comprend, je crois, très simplement, qui a été inventée donc pendant après aussi beaucoup de disputes depuis la Révolution française, donc qui a pris forme en 1905, qui est quand même une loi qui permet à tout un chacun de se construire comme il le souhaite ou elle le souhaite, religieusement, politiquement, moralement, etc. Et que l'État et voilà toute la puissance publique se retire de ces questions-là pour permettre la liberté de conscience. Donc cette liberté de conscience, je trouve, est tellement importante dans notre démocratie. Donc je me disais, comment le théâtre peut aussi redonner de la pensée là où ça pense plus beaucoup.
Tu es toute seule, mon bijou. Mais oui, je suis seule, mais... Ils sont pas là, les nains. Non, ils sont sortis. Tu fais des tartes? Oui, des tartes aux prunes. Les tartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Et faites avec de belles pommes, comme celle-ci.
Oh, elles ont l'air délicieuses.
Oui, mais attends d'en goûter une, mon trésor. Tu veux en goûter une? Vas-y, vas-y, croque-en un morceau.
Ah, ah, allez-vous-en. Ah, laissez-moi. Ah, allez-vous-en.
Assez, allez-vous-en.
Cette nuit-là, d'ailleurs. Oui, je m'en souviens. Debbie et moi, l'un contre l'autre, j'effleurais sa peau de soie. Et là, m'est revenu un souvenir que je croyais complètement oublié. Un lointain souvenir, un souvenir d'enfance. La grande maison victorienne de Long Island, des cousins à qui on rendait visite. Le plancher qui craque, les odeurs omniprésentes, l'agitation. 13 gosses dans cette baraque. Ernesto qui me cognait dessus après les matchs de catch à la télé. Et Cheo qui gigotait sur du rock'n'roll pour sentir ses couilles ballottées dans son caleçon. Et puis, Eva. Oui, c'est cette nuit-là. Je m'en souviens. Debbie et moi, l'un contre l'autre.
Métamorphose d'un thème à travers les siècles, de différents thèmes qui se tissent, s'entrelacent et qui ne se lassent pas de s'entrelacer et de s'enlacer. Ève, Adam, le désir, Blanche-Neige, le prince charmant, le séducteur, la séductrice, le serpent, la sorcière et le fruit. Ah, le célèbre fruit que l'on dit être une pomme, mais ce n'est qu'un on dit car le texte ne parle que d'un fruit sans le nommer. La pomme naît de la traduction de saint Jérôme, qui fait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en latin « lignum scientiae boni et mali ». Pendant des siècles, seule la traduction latine fut l'accès au texte biblique. Or en latin, le mal se dit « malum » avec un « a » long, tandis que « malum » à bref signifie le pommier. Les accents n'étant pas notés, le passage de l'un à l'autre se fit rapidement et sans difficulté, le célèbre arbre de la connaissance du bien et du mal devint ainsi un pommier. Ainsi naquit la pomme, par une faute de lecture, s'entend. Est-ce aussi, François Rancillac, l'une des significations que l'on peut entendre dans le titre de votre pièce « Chercher la faute » et pourquoi avoir voulu nous proposer ce morceau de musique intitulé « La tectonique des nuages » François Rancillac.
Alors d'abord, la tectonique des nuages, c'est très personnel d'abord. C'est un opéra jazz composé par Laurent Cuny. C'est un projet que j'ai accompagné avec Laurent depuis le début, qu'on a créé après des années de quête là aussi, à l'opéra de Nantes et Angers. Ça a été à la fois une très très belle aventure et c'est une histoire de rencontre. C'est aussi pour ça, de manière moins anecdotique, c'est une rencontre entre un monsieur lambda qui croise par hasard dans une rue de San Francisco une jeune femme qui en fait a un rapport au temps extrêmement étrange, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée au temps. Donc une sorte de fée, de nymphe. En plus, elle arrive sous l'eau, enfin, le déluge est là également, il y a toujours la menace du Big One aussi, de la catastrophe, etc. Et en fait, c'est une rencontre d'amour totalement improbable, qui est aussi une rencontre d'amour peut-être entre le soleil et la lune. Enfin, il y a une sorte de métaphysique tout autour de ce texte. C'est une sorte d'univers un peu magique, un peu à la Garcia Marquez. José Rivera est un auteur portoricain, américain portoricain. Et dans la chanson là dont on a entendu juste le début parler, puis après la voix se met à chanter quand l'émotion devient trop forte, comme dans l'opéra classique, c'est ce souvenir alors que le personnage est en train de rencontrer une autre femme, et c'est en fait sa première émotion érotique, amoureuse, avec une femme qui s'appelle évidemment, comme par hasard, Eva. Et ce qui est magnifique, c'est combien cette rencontre, à la fois, lui était adolescent, donc extrêmement sensuel, le contact de la peau sous les auspices de la lune, il le dit à la toute fin, va transformer son rapport au monde, son rapport à la matière, au contact du monde et au temps. Et donc, chaque fois qu'il y a cette rencontre amoureuse, il a l'impression de re-questionner son rapport au temps grâce à la femme.
Et on retrouve la Ève biblique, qui est une histoire en fait de rencontre, de relation, de séduction, d'erreur aussi, parce que on a parlé de la pomme qui n'existe pas. Le complexe de la pomme, c'est le nom qu'on peut donner à cette façon pour une idée erronée d'être transmise de génération en génération sans être remise en question. Cette pomme s'est si bien installée dans le savoir populaire et parfois même savant que les siècles n'ont pas entamé sa représentation. L'histoire de la peinture en est un témoin fidèle, que ce soit dans l'œuvre de Hugo van der Goes intitulée « Le péché originel » 1470, ou dans « Adam et Ève » de Cranach l'Ancien en 1526, dans « Le péché originel » du Tintoret vers 1550, ou dans « Adam et Ève » de Durer de 1504, ou encore « L'Adam et Ève » de Rubens de 1628, pour ne citer que des peintres du 15e, 16e et 17e siècle, tous nous offrent une pomme, symbole du péché originel ou de la faute originelle, cette faute à la recherche de laquelle, François Rancillac, vous êtes parti en compagnie du très beau et très subtil texte de Marie Balmary. En quoi le voyage auquel la lecture de Marie Balmary nous invite et auquel vous nous invitez avec elle est-il différent des autres voyages que le lecteur et ici le spectateur ont pu déjà avoir fait dans leur vie? Qu'avez-vous découvert et que désirez-vous faire découvrir au spectateur, François Rancillac?
Effectivement, la pomme, on a vite fait d'évincer ça, même si on s'en amuse. Et pour reprendre aussi votre question tout à l'heure, évidemment, le titre « Chercher la faute » s'amuse aussi de ça. D'ailleurs, l'affiche, c'est une pomme. Donc, on commence effectivement par ce qu'on croit déjà savoir de ces textes-là. Et que l'invitation au spectacle, qui répond à l'invitation de Marie Balmary, entre autres, il y a beaucoup de gens qui nous invitent, heureusement, à relire. Et sachant que lire, c'est interpréter. Et nous, en tant que comme et femmes de théâtre, on connaît ça. Enfin, on le connaît pas forcément, évidemment, avec les mêmes outils. On travaille pas sur les mêmes textes. Mais si on remonte Molière, que vous citiez tout à l'heure, c'est pas parce que c'est Molière, parce que c'est un monument. C'est parce que Molière continue à nous interroger, nous, aujourd'hui. C'est le seul intérêt de continuer à le monter. Molière est vivant. Et Molière est dérangeant et surprenant. Mais encore faut-il se laver les yeux de ce qu'on croit savoir de Molière. Ce qui est d'ailleurs très difficile. J'en ai monté deux. Je trouve que c'est un auteur horriblement difficile à monter parce qu'il faut presque se remettre à nu devant le texte. Et donc, la proposition de Marie Balmary, c'est d'essayer de lire le texte comme si c'était la première fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier comment on parle, le langage. Ça ne veut pas dire pas oublier que tous les outils, que la littérature, que la philosophie, la psychanalyse, l'exégèse, etc. ont pu nous apporter. Mais essayer de ne pas déjà savoir, donc de ne pas préinterpréter le texte. Donc c'est pour ça que le fait qu'elle lise à plusieurs, elle l'a vraiment théorisé hein, dans un de ses livres, permet encore une fois de déjouer les préinterprétations. Quand quelqu'un dit « bah oui, ça veut dire ça », parce qu'on est à plusieurs, donc dans un espace polyphonique où la contradiction est possible, il y a quelqu'un qui peut dire « mais excusez-moi, mais je le vois pas, là ». Et peut-être que ce qui est dans le texte, c'est peut-être plus riche que ce que vous croyez déjà en savoir. Puis aussi, en tant que psy, comme on n'a pas les mêmes surmoi, et comme on a toujours un peu tendance, culturellement, traditionnellement, à toujours lire ces textes religieux comme l'expression d'un Dieu tout-puissant qui redirait en permanence son autorité absolue sur sa créature, qui a juste une chose à faire, c'est-à-dire s'écraser et dire Amen. Ça lui est insupportable, et elle prouve d'ailleurs dans les textes qu'il y a tout à fait moyen de déjouer ça. Donc pour éviter de faire toujours des textes de pouvoir et d'autorité, là aussi, il y a toujours quelqu'un autour de la table qui dit, parce qu'on n'a pas toujours on n'a pas les mêmes surmoi, heureusement, dire, ben, non, pas forcément, si on regarde le texte, si on regarde le mot, si on regarde l'étymologie du mot, etc. Donc, elle dit d'ailleurs qu'elle a appris à lire la Bible d'abord après avoir été, je crois, très tourneboulée par la traduction de Chouraki, hein, qui essaye de, tant bien que mal, d'essayer de coller au texte originel, quitte à écrire dans un français un peu limite, mais pour déjouer, encore une fois, les interprétations a priori acquises, traditionnelles, etc. Et puis, elle dit qu'elle a appris aussi à lire la Bible avec les rabbins. Donc, je pense, dans ce travail-là, d'aller déplier le mot, déplier le sens, et d'essayer de trouver, encore une fois, à plusieurs, en faisant confiance à l'intelligence collective, d'autres sens qui sont pour nous vivants, qui peuvent nous donner du courage à vivre ensemble.
Alors c'est une façon, comme elle le dit, de jouer du mythe comme on joue d'un instrument de musique, de façon toujours nouvelle, une façon de rêver le mythe. Et d'une certaine manière, sans dévoiler les secrets de votre mise en scène, ce que les spectateurs verront quand ils viendront voir la pièce, quel est le parti pris de votre mise en scène, François Ranciac? Puisque là, vous parlez de lecture et j'ai l'impression que la grande nouveauté, c'est que vous ne mettez pas en scène l'intrigue biblique, mais la lecture biblique.
Absolument.
Et l'interprétation.
C'est-à-dire, c'est très simple, hein, puis j'ai pas inventé la poudre. Le public, comme vous l'avez vu, le public est invité non pas à s'asseoir dans les gradins, mais à s'asseoir autour d'une grande table. Donc il y a à peu près 35 places autour de la table, et puis à peu près 35 places juste derrière. Table couverte de livres, évidemment de Bible, mais aussi des Corans, il y a aussi des textes de spiritualité orientale, il y a des textes de chercheurs, d'exégètes, etc. etc. Et surtout, tout le monde a le texte, et dans plusieurs traductions. Alors même si on travaille sur la traduction de Chouraki, puisque c'est à partir de celle-là qu'elle transmet au lecteur dans ses livres son boulot, il y a encore une fois plusieurs traductions aussi, et les gens d'ailleurs posent, parce qu'il y a toujours une discussion hein, après le spectacle, c'est parce qu'on parle beaucoup de la parole de l'autre, donc à un moment il faut la donner, et les gens sont toujours très curieux de dire mais pourquoi, bah alors pourquoi dans telle traduction c'est pas traduit pareil, etc. etc. Donc l'idée c'est vraiment d'inviter les gens à être dans ce travail-là de lecture, c'est-à-dire vraiment encore une fois d'être responsable de sa relation au texte d'une certaine manière. De pas se contenter de ce qu'on nous en a dit, mais d'être, voilà, des citoyens responsables, que tout un chacun, à l'endroit où il est, athée, croyant et, hein, chacun est à égalité devant le texte et peut participer à ce travail-là. Alors évidemment, dans ce qui est quand même le spectacle, il y en a trois parmi les spectateurs, donc qui sont assis au milieu des spectateurs lecteurs, qui prennent un peu plus la parole, qui sont donc les trois acteurs et qui vont après, bon, s'engueulant beaucoup, parce qu'ils ont aussi des positions, des postures, ils pensent que, etc. Donc là, la contradiction marche, donc ça libère un peu des a priori. Et petit à petit, donc, il y a une interprétation qui semble apparaître en direct sous les oreilles et les yeux des gens. Donc, et l'interprétation de Marie Balmary. Donc, qui était une lecture profondément, on va dire, éthique, philosophique, où il n'est question, en fait, que d'altérité. C'est ça qui l'intéresse dans ce texte-là.
Merci François Racillac pour ce très beau partage. Votre pièce « Chercher la faute » d'après l'œuvre de Marie Balmary et en particulier « La divine origine » est à l'Aquarium, au théâtre de l'Aquarium à Vincennes jusqu'au 28 janvier prochain. Une pièce magnifiquement servie par des acteurs d'une très grande subtilité, Daniel Chinsky, Daniel Königsberg, Frédéric Révérend et Fatima Soualia Manet. Merci encore François Racillac.
Merci beaucoup à vous.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise Anne Ménager, à la technique Claude Niort et à la réalisation, comme d'habitude, d'Annie Journeau. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité, ainsi que tous les détails pour vous rendre au Théâtre de l'Aquarium sur le site de l'émission. Coltouv, Le Hitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.